Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour les auditeurices. Dans le dernier épisode d'Abra le corps, nous avons fait un petit voyage historique revenant sur les fondations de l'injonction à la reproduction sexuelle. Comme tous les épisodes d'Abra le corps, vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de la radio de la Clé des Ondes et sur la plateforme PodCloud. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre ce décortiquage historique en revenant cette fois, plus précisément, sur la manière dont le corps médical a émergé et s'est accaparé le savoir sur les corps des assignées femmes, visant notamment à administrer les capacités reproductives devenues un enjeu essentiel de l'extension et du maintien d'une certaine population nationale. Nous avons vu le lien entre le développement de nouveaux paradigmes philosophiques, les bouleversements économiques, notamment dans les formes d'agriculture tournées de plus en plus vers la rentabilité, et l'enfermement des dites femmes occidentales dans la sphère privée et les activités de reproduction. Comme vu précédemment, les représentations mentales du phénomène de reproduction sont longtemps restées focalisées sur l'idée d'un corps peu à peu assigné féminin, voué à recevoir une semence d'un autre corps, peu à peu assigné masculin. Une fois les enfants mis au monde, les corps qui les ont portés se voient plus généralement attribuer la tâche de s'en occuper, tandis que les autres mènent le reste des activités, notamment des affaires publiques. De la médecine grecque au Moyen-Âge, en passant par le droit romain, c'est ce type de représentation et d'organisation sociale, toujours sous différentes déclinaisons, qui prédomine. Néanmoins, jusqu'à la fin de la période moyenâgeuse, la plupart des familles de pouvoir n'accordent pas beaucoup plus d'importance que ça à la question de la natalité, l'enjeu restant essentiellement celui de la transmission des richesses et notamment des fiefs au sein des familles de seigneurs, et encore, la transmission héréditaire n'a pas forcément été la norme partout et tout le temps. Certains seigneurs faisaient également don de leur patrimoine à de lointains cousins, des sortes de fils adoptés, voire à des serfs, s'étant montrés particulièrement loyaux. On trouve même quelques femmes héritières et châtelaines, du style Sansa dans Game of Thrones. C'est finalement la fin du système féodal et la centralisation progressive des ressources et richesses autour de ce que vont devenir les États modernes que va progressivement s'ériger la natalité comme une question centrale. En effet, à la Renaissance, les nouveaux États-nations ont besoin d'habitants-habitantes pour peupler et tenir leurs nouvelles frontières territoriales. Massifier la population devient alors un objectif essentiel afin de donner corps au nouveau récit national. Celui-ci s'appuie sur de nombreux discours qui tentent d'établir une identité commune à l'ensemble des personnes du territoire donné, que ces discours soient de l'ordre plutôt biologicien ou culturel, selon les périodes, les dirigeants et les états observés. Le repeuplement apparaît d'autant plus urgent que l'épidémie de peste et la guerre de Cent Ans ont décimé les 4/5 du continent européen. Or, aubaine, l'Église chrétienne, qui essuie ses premières fractures internes et notamment les critiques protestantes, cherche elle aussi à réaffirmer son pouvoir. Des alliances se créent entre le pouvoir religieux de l'Église catholique et certains des nouveaux États européens pour assurer le contrôle et la reproduction des populations. Et quoi de mieux que le fameux mythe du péché originel pour renforcer et légitimer les structures en place ? Les hommes descendants d'Adam ne sauraient obtenir leur rédemption qu'en travaillant à la « sueur de leur front », pour citer la Bible. À eux donc les lourdes tâches agricoles. Les femmes descendantes d'Ève, la pécheresse suprême, sont pour leur part condamnées à enfanter dans la douleur. Les rôles sont ainsi bien attribués, renforçant au passage la diabolisation de la figure féminine qu'il s'agit de contrôler et de maintenir dans son strict rôle de reproductrice. Ainsi, toutes ces femmes et ces quelques hommes qui avaient pu développer et transmettre leurs connaissances autour du soin et de la maîtrise de la fécondité dans une relative tranquillité tout au long du Moyen-Âge vont peu à peu devenir la cible des nouveaux puissants politiques et religieux. Dans ses travaux, Starhawk nous montre comment l'intensification de l'exploitation des terres au début de la période dite de la Renaissance correspond à un besoin parallèle par les nouveaux groupes dominants d'exproprier la connaissance. Au XVIe et XVIIe siècle, alors qu'on commence à tout monétiser, les savoirs et activités que les gens pratiquaient alors pour elles-mêmes, pour leurs soins et leurs besoins quotidiens ou pour leur communauté, se voient à leur tour attribuer une certaine importance économique. La réforme protestante, en plus de supprimer le monopole de l'Église catholique dans le contrôle de la connaissance légitime, encourage la montée des corps dits « professionnels » désirés d'acheter les savoirs. Ivan Illich, que mentionne Starhawk, a montré comment les nouvelles élites sociales se mettent à standardiser les langues, à s'en servir comme, je cite, « un instrument de discrimination et un outil de conquête ». Fin de citation. Ivan Illich souligne d'ailleurs que c'est avec la réforme qu'apparaît pour la première fois le terme « d'éducation ». Cette notion affirme que sans une formation particulière, l'individu serait naturellement inapte à la vie en société. Et cette éducation doit être attestée par une licence ou un diplôme. C'est tout simplement la mise en place de l'idéal méritocratique. Les valeurs du protestantisme poussent à s'éduquer autant qu'à s'enrichir de manière à se montrer digne de la lumière divine, ce qu'on appelle la théorie de la prédestination. Autour de cette même idée, le sociologue Max Weber a montré comment l'éthique protestante avait fortement imprégné la constitution du rêve américain, qui structure encore aujourd'hui la culture états-unienne, et bon nombre de cultures occidentales d'ailleurs. Le corps médical est bien sûr l'une des principales professions montantes de l'époque. Les nouveaux diplômes jettent le discrédit sur les pratiques des personnes de genre féminin, en tout cas assignées au féminin, qui jusque-là prenaient en charge l'essentiel des pratiques de soins. Et bien entendu, puisque ces mêmes personnes sont exclues des institutions éducatives, les nouveaux hommes de cette nouvelle profession ne craignent pas leur compétition. Forts de leur monopole, ils peuvent même augmenter librement leurs tarifs. Jusque-là, le soin pratiqué par les sorciers, sorcières et guérisseuses privilégiait avant tout une médecine de la prévention, en lien avec l'environnement naturel, recherchant avant tout la reconstitution des forces des patients-patientes. Il se focalisait essentiellement sur la propreté, l'usage des herbes, etc. Désireux de se démarquer, le nouveau corps des médecins, lui, se met à prôner de nouveaux types de traitements, tout de suite bien plus impressionnants, tels que les saignées ou les purges. À partir du XVIIe siècle, cette nouvelle profession s'approprie également le domaine de l'accouchement. Une nouvelle vague de discrédit est jetée sur les accoucheuses des classes populaires, désignées comme sales et ignorantes. Dans le dernier épisode, je rappelais les difficultés rencontrées par le corps professionnel des sages-femmes pour faire valoir leur profession. Un des exemples de cette bataille se retrouve dans l'hostilité et les réticences vigoureuses du corps des médecins à permettre aux sages-femmes d'ouvrir des maisons de naissance ou à proposer des accouchements à domicile. Ce retour de l'accouchement au sein de la sphère privée, pourtant de plus en plus désiré par les patientes elles-mêmes, marque aux yeux de beaucoup de médecins assez conservateurs une sortie de leur chaise gardée qui leur déplaît fortement. L'émergence de cette nouvelle élite médicale constitue une nouvelle forme de mise à distance, celle des corps sexisés, expropriés de leur propre connaissance et du soin par elles-mêmes sur elles-mêmes. Un soin désormais confié à des soi-disant experts extérieurs. Comme le rappelle Starhawk, confier son corps et sa vie à une personne extérieure, c'est bien sûr lui consacrer un pouvoir sur soi. La confiance en soi et en notre capacité à contrôler notre propre destinée s'en trouve affaiblie. Peu étonnant que les personnes enceintes se trouvent autant ballottées entre des injonctions contradictoires qui évoluent assez vite selon les époques, ne sachant jamais vraiment qui écouter, effrayées de commettre le moindre impair lors de la grossesse. Ce sentiment d'étrangeté face au fonctionnement et aux besoins de nos corps se retrouve de manière générale dans l'ensemble des pans médicaux et notamment dans notre impuissance actuelle face au coronavirus, ne sachant qui écouter, qui croire, confiant notre vie, notre corps, aux expertes médicaux et n'osant nous fier à nos propres intuitions, ces sensations qu'on nous a appris à réprimer et à discréditer depuis des siècles. Si l'on en revient à notre période dite de la Renaissance, le discrédit jeté sur les savoirs pratiques des classes populaires ne reste pas bien longtemps du simple registre du discours. En parallèle des processus de colonisation et d'évangélisation, tout comme de professionnalisation de certains corps médicaux, l'Inquisition lance sa fameuse chasse aux sorcières. Dénoncées par des voisins et des proches jaloux, accusées de copuler avec le diable, les guérisseuses des villages, parfois de simples femmes célibataires ou ne semblant ne pas se conformer à un cadre familial strictement identifiable et contrôlable, sont poursuivies, torturées et brûlées dans l'un des premiers génocides de l'histoire moderne. Les solidarités locales sont démantelées, les regroupements de femmes taxés de suspects. On se met à les accuser de s'adonner au sabbat, allant jusqu'au dévorage d'enfants.
On dit qu'elle enlève les enfants pour les manger.
En particulier les nourrissons.
Oh, quelle horreur !
En plus, elle a voulu être attirée que par les femmes.
Silence ! Prenez place.
Nous vous accusons de pratiquer de sombres ablutions, de laisser cours à vos pulsions les plus démoniaques, de danser nu sous l'orage. Mais voici venu le temps des punitions, comme l'a prédit l'oracle. Vous n'êtes qu'une sorcière, une tortionnaire hors pair, noire et le sang qui coule dans vos artères. Nous allons vous étriper, crever vos yeux, purifier votre âme par le feu. Amen.
Insultez-moi à outrance si cela vous chante. Je ne crains pas la souffrance, mais ne m'inculpez pas. Ce serait fâcheux pour ces filles et leurs prétendants. Qui d'autre que moi pourrait s'occuper de leurs descendants? Si vous me jetez au bûcher, qui aidera ces filles à avorter? Qui va adopter les enfants mal formés, abandonnés? Sachez que la compassion trône sous mon toit de chaume, mais que sous les eaux, il n'y a ni fantôme ni gnome.
Bien entendu, avortement et infanticide continuent. Les assignées femmes résistent et se battent contre ces maternités imposées. Mais la menace est constante et appelle à des stratégies de dissimulation permanentes. L'infanticide est officiellement condamné en 1556. Henri III rend la déclaration de grossesse obligatoire et rend passible de peine de mort le fait de dissimuler la grossesse, en particulier pour les femmes célibataires ou veuves. Le baptême devient alors l'acte officiel par lequel l'enfant doit être reconnu. En 1588, autour du pape, d'y mettre son grain de sel, condamnant l'avortement et la contraception. Il y a plus de 3 ans, en 2017, une exposition intitulée « Présumé coupable » était présentée à Paris. Par le rassemblement d'archives, elle revenait sur 5 archétypes de femmes massivement condamnées par l'appareil judiciaire tout au long de l'histoire. La figure de la sorcière d'abord, puis ses différentes déclinaisons dans les siècles suivants, à savoir l'empoisonneuse, l'infanticide, la pétroleuse et la traîtresse collaboratrice. Ces figures féminines, présentées comme dangereuses voire monstrueuses, cassent avec une représentation sociale plus commune de la femme faible et inoffensive. Elles sont fabriquées lors des moments d'intense crise sociale et politique, jouant un rôle de bouc émissaire, tout en permettant aux instances de pouvoir de réaffirmer le contrôle sur les corps de celles dont elles entendent pouvoir toujours disposer et qui semblent pourtant leur échapper. L'arrestation, la torture et souvent la mise à mort de ces corps féminins sont alors des catharsis de purgation du corps social. Un arpentage radiophonique de cette exposition est proposé dans une émission du 7 mars 2017 par la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Concernant l'infanticide, les archives présentées dans cette exposition montrent qu'une répression intransigeante fut appliquée contre les autrices de cet acte jusqu'au XVIIIe siècle. Face à la menace de mort, les accusés plaident majoritairement non coupables. Et elles se défendent de toute préméditation en expliquant ne pas avoir su qui elles étaient enceintes ou alors ce qui leur arrivait au moment de l'accouchement. Et elles sont rarement crues, bien sûr, et l'ensemble du voisinage est interrogé sur les signes avant-coureurs de la grossesse, la forme du ventre, de la poitrine, etc. Au XVIIIe siècle, la dynamique s'inverse peu à peu. En même temps que la maternité est de plus en plus considérée comme naturelle et sacrée, le meurtre volontaire d'un enfant par sa mère devient de plus en plus inconcevable. Elles ne savaient pas, elles ne l'ont pas fait exprès, deviennent des discours dominants. Les accusés sont de moins en moins condamnés, voire même se trouvent acquittés. Les hommes au pouvoir considèrent que la perte de l'enfant constitue déjà un drame en soi pour les mères et qu'il n'y a pas besoin donc de leur infliger une peine supplémentaire. De manière générale, on voit bien néanmoins l'obsession du contrôle de la maternité des dites femmes qui s'étend aussitôt à une défiance et une volonté de maîtrise sur l'ensemble de leur corps. Et il faut pour les pouvoirs maîtriser l'assignation féminine et ce que l'on peut en faire. Quel que soit le traitement qui est décidé pour les personnes accusées d'infanticide, il paraît de plus en plus inenvisageable que l'acte ait pu être motivé par des considérations rationnelles. Grosso modo, les personnes infanticides, comme on les appelle, c'est-à-dire celles qu'on accuse ou soupçonne d'avoir tué leur enfant tout juste né, sont soit victimes malgré elles, soit folles. On retrouve là la même ligne de stéréotypes sur laquelle se déclinent les différentes figures féminines selon les besoins du moment. Quand elles ne sont pas prises en pitié, infériorisées, stigmatisées ou dévalorisées, c'est-à-dire quand elles ne sont pas présentées comme de pauvres petites choses fragiles, victimes d'un corps naturel que contrairement aux hommes rationnels elles seraient incapables de connaître et maîtriser, Elles sont au contraire dépeintes comme inhumaines, monstrueuses. Que cela soit perçu comme l'œuvre du démon pour les sorcières, ou d'une maladie pour les femmes considérées comme folles au XIXe siècle et internées dans les asiles. La femme dangereuse et criminelle est toujours celle qui outrepasse les critères d'identification qui lui sont assignés. Pour les femmes considérées comme blanches et issues d'une certaine classe sociale, il s'agit surtout d'une sortie de route, hors des codes sociaux, devant faire d'elles de bonnes épouses puis de bonnes mères. Ces déviances conduisent à leur mise à mort réelle ou au moins sociale, en les enfermant à l'écart de la société. Pour les femmes plus précaires, ou considérées d'une race inférieure, tout dépend de l'usage qui peut encore être fait de leur ventre ou de leur main-d'œuvre. Les périodes de crise sociale qui déstabilisent l'ordre préétabli poussent encore plus loin leur déshumanisation. Les femmes pauvres, racisées, vieilles, invalides, etc., sont alors d'autant plus bestialisées et présentées comme dangereuses. La norme édictée par la figure féminine est donc calquée sur le modèle d'une femme blanche, docile, se pliant au schéma hétéro et prête à enfanter. Dès lors que celle-ci n'est plus seulement une chose fragile, mais également une travailleuse, que son mode de vie sort du modèle de la famille nucléaire parce qu'elle est célibataire, lesbienne, veuve ou autre, ou qu'elle rejette la maternité, cette personne encore assignée au sexe féminin est estimée déviante, potentiellement menaçante ou malade, selon les cas de figure. On retrouve ces représentations stéréotypes dans beaucoup de récits et de fictions. Vis-à-vis de l'infanticide, on peut penser à Médée, dévoreuse de ses enfants dans la mythologie grecque.
Oh bêtes innombrables autour de moi, travailleuses obscures de cette lande, innocentes, terribles, tueuses. C'est cela qu'ils appellent nuit calme, les hommes. Ce grouillement géant d'accouplement silencieux et de meurtre. Mais je vous sens, moi. Je vous entends toutes ce soir pour la première fois. Au fond des eaux, des herbes, dans les arbres, sous la terre. Le même sang bat dans nos veines. Fête de la nuit. Étrangleuse, mes sœurs. Médée est une bête comme vous. Médée va jouir et tuer comme vous. Cette lande touche à d'autres landes et ces landes à d'autres encore jusqu'à la limite de l'ombre, où des millions de bêtes innocentes se pourchassent et égorgent en même temps. Bête de cette nuit, Médée est là, debout, au milieu de vous, consentant à détruire sans sa race. Je pousse avec vous votre cri obscur. J'accepte qu'en vous sans plus vouloir comprendre le noir commandement. J'écrase du pied, j'éteins la petite lumière. Je fais le geste honteux. Je prends sur moi, j'assume, je revendique. Bête, je suis vous. Tout ce qui chasse et tue cette nuit et m'aider.
Plus près de nous peut-être, la femme de Teddy Daniels dans Shutter Island a assassiné ses enfants par folie. La figure de la marâtre des contes de fées peut être vue comme un dérivé de l'infanticide. Incarnation de la méchante, telle la belle-mère de Cendrillon, voire carrément sorcière dans La Belle au bois dormant ou dans Blanche-Neige. Néanmoins, le fait qu'il s'agisse d'une belle-mère et non d'une mère biologique permet de ne pas trop menacer le discours social dominant qui véhicule alors l'idée d'un modèle naturel d'une mère biologique aimante et prête au sacrifice. Quand elles ne sont pas machiavéliques, les mères infanticides, telles qu'on les trouve beaucoup dans la littérature germanophone, sont victimes de la séduction ou du viol des hommes. Leur acte présenté comme désespéré cherche alors à éviter la honte morale ou sociale d'être des mères-filles, raison à laquelle peut s'ajouter la précarité économique pour les plus pauvres. Comme le montrent les travaux de la chercheuse en études germaniques Ingeborg Rabenstein-Michel, tout cela n'enlève en rien leur responsabilité morale et la nécessité d'expier leurs péchés en trouvant la mort à leur tour. La Marguerite de Goethe est certainement la figure la plus emblématique de l'infanticide de la fiction germanophone. Séduite et mise enceinte par Faust, abandonnée à son sort, elle tue son enfant, à l'instar de ses deux sœurs avant elle. Elle finit par se faire arrêter et perd la raison dans son cachot, dans l'attente de son exécution. Chez Goethe, l'infanticide est toujours le résultat d'un péché, présentée comme une vaine tentative de faire disparaître la preuve du délit de chair. La mort de la mère coupable lave presque davantage la famille et la société du péché moral que l'accusée elle-même. On trouve en revanche peu de représentations littéraires et culturelles d'infanticide commis par le père. Tout se passe comme si celui-ci était absent, éthéré, voire systématiquement victime de l'acte de la mère. Cette idée nourrit certainement l'imaginaire et l'obsession masculine pour un contrôle soi-disant des femmes et de leur corps, frustrés de leur propre incapacité à enfanter. En réalité, l'infanticide par les pères a toujours existé et a même été largement toléré. C'est ce qu'explique Ingeborg Rabenstein-Michel. Les lois grecques et romaines accordaient des droits de vie et de mort des pères sur les fils. C'est à eux que revenait la décision d'intégrer ou non les enfants au sein de leur famille. Ils pouvaient décider de rejeter l'enfant présenté par la sage-femme, le plus souvent lorsque l'enfant était mal formé, qu'on lui assignait un sexe féminin ou que le père n'était pas sûr de sa paternité. L'infanticide a également pu être pratiqué comme outil de régulation des dynasties afin de limiter les conflits de succession. La double lecture sexiste de l'infanticide légitime côté père versus l'infanticide monstrueux côté mère se retrouve aussi régulièrement vis-à-vis du sexe de l'enfant mort. En raison du schéma de filiation essentiellement focalisé sur la transmission père-fils, la mère est plus violemment condamnée lorsque l'enfant tué est assigné au sexe masculin. Dans ce climat de suspicion et de condamnation générale de l'infanticide, les sages-femmes se retrouvent elles aussi persécutées. En effet, l'étendue et la diversité traditionnelle de leurs pratiques, allant de l'accompagnement prénatal à toutes les activités postnatales, en passant par les pratiques de l'accouchement mais également de l'avortement, etc., font des sages-femmes des figures particulièrement suspectes. Ne pouvant toutefois totalement se passer de leur savoir et les faire disparaître, l'Église et les monarchies les forcent alors à se constituer en corporations, placées sous le contrôle croissant du nouveau corps médical des chirurgiens. Peu à peu, les sages-femmes se retrouvent éloignées des pratiques directement obstétricales et davantage renvoyées à l'accompagnement de la maternité. Ce phénomène est en partie expliqué par les travaux de Patricia Ménissier, spécialiste de littérature au XVIIIe siècle et autrice d'une thèse sur l'évolution de la figure maternelle entre le XVIe et le XXe siècle. La chercheuse montre en effet que l'édification de la figure maternelle telle qu'on la trouve aujourd'hui dans nos sociétés occidentales est assez récente. Si les nouvelles élites, émergeant à partir de la Renaissance, souhaitent s'arroger le contrôle sur les corps utérinés pour assurer un renouvellement de la population, la maternité comme concept général d'éducation et de soins des enfants n'est pas tout de suite vue comme devant forcément être le fait des corps qui mettent au monde, notamment si ces corps assignés femmes appartiennent aux classes socialement et économiquement dominantes. Au sein des aristocraties européennes, les enfants se retrouvent ainsi le plus souvent confiés à des nourrices issues de strates économiques inférieures.
Skin is brown, my manner is tough, I'll kill the first mother I see, my life has been rough.
Réflexion autour d'un tabou l'infanticide, édité aux éditions Cambourakis, met également en avant les ressources sociales que peut constituer la maternité dans l'accès au pouvoir des femmes plus haut placées, comme en témoigne la figure de la régente, gérant l'État en attendant que le fils roi puisse prendre ses fonctions officielles. D'après l'historienne Yvonne Kniebieler, autrice de « Histoire des mères et de la maternité en Occident », la naturalisation de la maternité ne remonterait pas avant le XVIIIe siècle et la philosophie des Lumières. Patricia Ménissier attribue pour sa part l'une des premières apparitions de la figure maternelle dans la fiction au roman « Julie ou la nouvelle Héloïse » de Rousseau. La mère devient un être naturellement voué à se préoccuper des autres. Cette représentation va rester, alimentée bien sûr par les auteurs masculins. Au XVIIIe siècle, l'essentialisation de cette fonction du soin s'étend à la figure féminine en général. Cela s'opère selon un nouveau schéma prêt à porter de, entre guillemets, toutes les femmes sont vouées à être mères et comme toutes les femmes sont destinées à se préoccuper des autres, toutes les femmes seraient vouées à s'occuper et soigner le reste du monde, CQFD. Les travaux de l'hystérienne Naïma Hanafi soulignent une dynamique similaire. En plus du contrôle de l'époux, la maternité est de plus en plus normée. On conseille aux futures mères de fortement restreindre leur imagination afin de ne pas impacter le caractère et la physionomie de l'enfant. L'ensemble de leur activité, lecture, exercice, déplacement, alimentation, deviennent l'objet d'un contrôle constant.
La perte d'appétit est très courante durant les premières semaines. Vous devrez faire un petit effort. Vous êtes sur le point de vivre une aventure formidable. Et je peux vous assurer que nous veillerons à ce que vous n'ayez absolument besoin de rien. Vous pourrez vous reposer, bien manger, prendre l'air, vous dépenser. Enfin, tant que vous ferez preuve de bonne volonté. Vous devriez y arriver, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Bien. J'ose espérer que nous n'aurons pas à subir une autre de vos scènes.
Étudiant les lettres échangées par les concernés, la chercheuse montre que ces dernières se réfèrent rarement de manière positive à leur grossesse. L'accouchement inquiète beaucoup. Les personnes enceintes sont tenues pour responsables en cas de fausse couche ou de malformation des nouveau-nés. Sans interroger l'impact que peut avoir certains dispositifs vestimentaires comme le corset à baleine au sein de la noblesse, on soupçonne par contre celle-ci régulièrement de comportements immoraux, notamment de relations extra-conjugales. Le nouveau corps des chirurgiens travaille notamment à convaincre de plus en plus les femmes de la noblesse à cesser de recourir aux sages-femmes de couche sociale inférieure qu'ils accusent d'être sales et ignorantes. Face à ces nouvelles figures, les pratiques de l'accouchement évoluent. Se pliant aux nouvelles normes de pudeur de l'époque, parturiants-parturiantes sont moins dénudés, moins libres de leurs mouvements et de leurs positions, davantage soumises aux objets obstétricaux inaugurés par ces nouveaux sachants. Les accouchements par opération se font de plus en plus fréquents pour accommoder ces messieurs qui n'ont pas de temps à perdre. Les sages-femmes, désormais considérées comme inexpérimentées, sont renvoyées aux tâches les moins valorisées. Souvent affublées du surnom de « entre guillemets femmelette », elles deviennent surtout des « entre guillemets gardes à coucher », assurant des soins postpartum. Les lettres étudiées par Naïma Hanafi témoignent au moins de l'attachement de beaucoup des parturiants-parturiantes à ces sages-femmes, qui elles apprécient pour leur disponibilité et leur sollicitude, bien éloignées de la froideur médicale des chirurgiens. Ces derniers, en retour, semblent s'accommoder de ce rôle joué par les sages-femmes, qui leur facilitent ainsi le travail en rendant, entre guillemets, les patients-patientes plus dociles. Fin des guillemets. Apparaît alors une véritable fracture sociale dans le rapport à la maternité et à l'accouchement selon le milieu social. L'accouchement est décrit comme assez naturel et simple pour les femmes issues de milieux populaires et vivant dans des zones rurales. À l'inverse, il semble être vécu de manière bien plus douloureuse par les femmes plus aisées et vivant en ville. Loin de questionner la pratique du corps chirurgien, la responsabilité est une fois de plus renvoyée aux parturiens-parturiantes dont la vulnérabilité est attribuée à leur mode de vie urbain et oisif. Douleurs et complications deviennent les normes, tant et si bien que la mention de « entre guillemets couches heureuses » ne désigne plus que les couches où l'EA parturiant-parturiante survit et où l'enfant, nouvellement mis au monde, se trouve en bonne santé. La préférence est toujours donnée aux descendants masculins afin de pérenniser le nom et les titres de noblesse. Françoise Héritier parle à ce titre de « valeur différentielle des sexes ». L'injonction à la production des descendants se fait d'autant plus forte que l'importante mortalité infantile pousse à ne pas se satisfaire d'un seul enfant de sexe masculin. Le fameux siècle des Lumières est donc celui où se consolide le plus l'injonction à la maternité. Une maternité aussi fortement encouragée que contrôlée. Certains discours attribuent même à la grossesse un statut thérapeutique. Celle-ci purgerait les humeurs, alors que la chasteté et l'infertilité seraient désormais considérées comme des menaces pour la dite santé féminine. La ménopause, quant à elle, vient marquer un tournant radical dans l'existence sociale des dites femmes, les poussant, le plus souvent, au retrait. Pour autant, là encore, les concernés ne se laissent pas marcher sur les pieds. Beaucoup ont recours à des stratégies d'éviction et des pratiques d'auto-organisation. Envers et contre tout, certains, certaines, choisissent le célibat ou l'abstinence. De nombreux avortements continuent d'être pratiqués clandestinement. Certains, certaines vont même jusqu'à encourager leurs époux à nouer des relations extra-conjugales ou à aller voir les prostituées. L'autoproclamation de ce nouveau corps de médecin n'empêche pas non plus la persistance de nombreux rites religieux. Bon, on a dressé déjà un premier panel de la manière dont évolue la figure maternelle. Nous verrons dans un prochain épisode les suites de cette continuité historique en reprenant à partir de la Révolution. Je vous laisse pour l'instant et vous souhaite une bonne semaine en attendant toujours vos réactions sur mon adresse mail abralecorps@riseup.net ou bien sur l'Instagram d'Abralecorps. Belle semaine!
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abralecorps.